Alors donc, on commence tout de suite, étant donné cette contrainte de temps que je vous indiquais. En tout cas, soyez tous les bienvenus. Le titre de la rencontre est parfaitement explicite, hein, littérature et politique en Grèce. Autrement dit, nous allons, avec les trois auteurs présents, mêler littérature et politique, deux univers et deux registres qui fonctionnent avec des codes et des usages de la langue habituellement différents. Mais dans le contexte très particulier qui est celui de l'actualité en Grèce, il nous a paru intéressant d'éclairer ça par la façon dont la littérature traite précisément des réalités, notamment politiques, économiques et autres. Alors je commence par des petites présentations rapide. Yanis Kourtsakis, vous êtes essayiste, romancier, chroniqueur, notamment pour la revue L'Atelier du Roman. Vous êtes né à Athènes, vous avez vécu une dizaine d'années à Paris. Vous êtes auteur d'essais sur Séphéris, dont je rappelle qu'il a été prix Nobel de littérature en 63. Auteur d'essais également sur le théâtre d'ombre grecque, sur la tradition orale, sur le carnaval. Et puis vous êtes l'auteur d'une trilogie romanesque dont le premier volet, le Dicolon, est paru en France chez Verdier en 2011, soit je crois 16 ans après sa publication en Grèce. Et votre dernier roman s'intitule Double Exil, toujours chez le même éditeur, chez Verdier. Merci Sotiropoulos, vous êtes poète et romancière. Vous avez étudié les sciences sociales et l'anthropologie en Italie, où vous avez vécu. Trois de vos romans sont traduits en France, Zigzag dans les orangers chez Maurice Nadeau en 2003, qui a reçu en Grèce le prix national de littérature et le prix de la critique. Dompter la bête chez Kidam éditeur en 2011. Et puis le dernier en date dont nous allons plus particulièrement parler, Eva, chez Stock. Nicolas Verdan, vous êtes écrivain et journaliste vaudois. Vous avez longtemps partagé votre vie entre la Suisse et la Grèce, qui est un peu votre seconde patrie, en tout cas le lieu où vous écrivez. Le Rendez-vous de Thessalonique est paru en 2005, Chromosome 68 en 2008. Le patient du docteur Hirschfeld, je n'ai pas bien prononcé, mais...
Hirschfeld,
merci, qui a reçu le prix du public RTS et paru en 2011, tous chez Bernard Campiche. Et votre dernier roman, toujours chez le même éditeur, s'intitule « Le mur grec ». Je le disais un tout petit peu en guise d'introduction, mêler littérature et politique nous invite d'emblée à poser la question du rôle de la littérature quant à l'expression des réalités du monde et sa capacité à dire le monde précisément et éventuellement de son influence sur le cours des choses. Et c'est la première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois. Quelle est, selon vous, la capacité de la littérature à dire la réalité du monde actuel et en quoi vient-elle se différencier des autres formes d'expression et de regard sur les réalités du monde? Merci Sotiropoulos, vous voulez commencer?
Je crois que la littérature doit poser surtout des questions. Ce n'est pas pour donner des solutions ou de promulguer des théories valables pour tout. Ce n'est pas une science exacte ou omnisciente. Les écrivains ont, je crois, la subtilité, la sensibilité de capter les signes prémonitoires d'une situation avant, bien avant les sociologues ou les politiciens ou les journalistes. Mm. Et ça, c'est très intéressant, soit qu'on lise la littérature grecque ou soit que c'est la littérature classique russe. On voit ça. Mm. Et c'est toujours, pour moi, tous mes livres, on peut dire qu'ils sont politiques, mais toujours d'une manière indirecte. J'aime pas si c'est quelque chose, soit l'histoire, soit la politique, qui est devant là, sur les plats, comme, parce que ça devient indigeste en littérature. Mmh. C'est pas la peine.
Mmh. Yanis Kourtsakis, vous partagez cette vision de la littérature comme étant peut-être prémonitoire?
Je suis tout à fait d'accord avec Hercy sur les deux points. Le premier point, c'est que la littérature est là pour poser des questions, mais les questions sont souvent meilleures que les réponses, elles éclairent beaucoup mieux. Alors, sur le second point aussi, que ça éclaire mieux que les sciences humaines, dont, que nous avons étudiées tous les deux, Hercy comme moi, les sciences humaines, mais en approfondi, la littérature est souvent prémonitoire, et on le sait depuis tant. Ce que je voulais ajouter, ce que je voudrais ajouter, c'est que la littérature est liée de naissance avec le langage, avec la langue, donc avec l'agora, avec la polis, la cité grecque, donc elle est forcément politique dans un sens très substantiel, pas du tout un sens partisan. Elle est politique parce que, de toute manière, elle s'implique dans la vie sociale, et je l'ai compris à travers mon écriture tant essayistique que romanesque.
Mmh. Nicolas Verdant.
Moi, je rejoins Hercy et Sotiropoulos et Yanis dans le sens où je pense que c'est aussi une question de vocabulaire. Et étant moi-même journaliste et écrivain, je fais clairement la différence entre le discours journalistique sur la Grèce et puis la manière dont un écrivain qui vit aujourd'hui peut témoigner de la réalité grecque. Et pour moi, le langage littéraire, en l'occurrence, c'est celui que j'ai choisi pour témoigner d'expériences qui à la base était journalistique, est plus fort, plus émotionnel, et parfois, justement en termes de vocabulaire, apporte des nuances que le discours journalistique ne serait pas en mesure d'apporter. Et je pense qu'en ce qui concerne la Grèce en particulier, qui était un pays qui, pendant les années 2000, a peu intéressé sur le plan journalistique la France, ou disons le monde francophone, eh bien, soudain, il voit débarquer une quantité de correspondants, de reporters qui se mettent à parler de la Grèce d'une manière stéréotypée. Et j'ai été très frappé de voir à quel point il y avait une ignorance des années qui ont précédé ce qu'on appelle la crise.
Mmh. Oui, très important.
Oui. Est-ce encore une ou deux questions générales, puis après, bien sûr, on va parler de vos textes respectifs. Est-ce que vous pensez que pour éclairer ce que vit actuellement la Grèce, qu'on peut peut-être qualifier de dérive du monde moderne, peut-être que la Grèce fait l'expérience d'un certain nombre de dérives du monde moderne avant d'autres pays, on ne sait pas. Est-ce que le facteur à la fois géographique, sa situation entre Orient et Occident, et aussi son histoire, le fait de vivre avec cette charge très lourde, enfin, c'est moi qui dis lourde, elle n'est peut-être pas d'un passé que l'on connaît. Est-ce que ces deux facteurs-là peuvent éclairer ?
C'est passé insupportable parfois.
C'est supportable ?
Insupportable.
Insupportable.
C'est un fardeau. Pour moi, comme adolescente, et surtout les années sous la dictature, c'était insupportable. En même temps, car on a l'impression, à travers les regards des étrangers, très souvent, qu'on passe de cette gloire du passé à un autre stéréotype, que c'est la Grèce des vacances, de Moussaka, de ça, de ça.
Syrtaki,
et des dettes. Vacances, dettes. Et ça, pas payer les taxes, notre monde, etc. Donc, il s'agit de deux stéréotypes, je crois. Et moi, très souvent, je me sens, ça m'est arrivé aussi avec, dans des présentations de livres avec un public, qui je me sens comme coincé entre ces deux stéréotypes, ce que c'est la Grèce moderne est ignoré. Ou mal traduite.
Yanis Kourtzakis.
Hercy a écrit un article que je trouvais très remarquable à la fin juin, qui a été paru dans Le Monde, et qui disait que, enfin, qui répondait plus directement à votre question. Je pense que c'était intitulé comme la Grèce avant-poste du déclin européen, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça, Hercy.
Non, c'était nous les Grecs, les païens de l'Europe.
Non, je suis pas d'accord. Je connais ton titre, oui.
C'est l'esprit qui compte, le titre
en
exact.
En tout cas, ouais. C'est vrai, je pense, enfin moi je suis tout à fait d'accord avec cette idée que si on regarde en profondeur la crise grecque, on verra la crise européenne et on verra la crise du monde actuellement, de la mondialisation. Alors on pourra revenir parce que cette histoire du passé dont vous parlez, c'est un fardeau, c'est vrai. C'est un fardeau parce que l'éducation, la culture académique nous a inculqué vraiment une image très très fausse, enfin très très bête de notre passé glorieux, alors qui nous pèse Mais si on se libère de ça, on verra que cet héritage est très important. Moi, je suis allé à la recherche de la Grèce à travers l'Europe, à travers mes études à Paris. Je suis parti à 18 ans, justement, parce que j'ai tout fait avec cette culture académique, avec le culte des ancêtres, etc. Et puis, en France, j'ai découvert l'autre Grèce, si vous voulez. J'ai retrouvé la Grèce de la Lumière. Alors, je me suis tourné vers la culture populaire, vers la culture orale. J'ai écrit des essais là-dessus. Et une fois que j'ai terminé ces essais, j'ai écrit ce cercle romanesque où, en fait, en façade, c'est autobiographique, mais en vérité, c'est une quête de la Grèce. Au fond de ça, au fond de chaque personnage, il y a une quête de la Grèce. Et alors ça m'a réconcilié avec mon fardeau, qui est tragique souvent, qui est lourd à porter, et qui m'a fait découvrir la pérennité de la langue grecque aujourd'hui, ici et maintenant. J'ai découvert le fil ténu de la... qui relie la Grèce ancienne à la Grèce d'aujourd'hui, sans aucun ethnocentrisme. Alors ça, on peut parler de ça parce que dans la crise, c'est l'espoir pour moi qui peut sortir de la société grecque et non pas du système politique actuel.
Mais cette projection de l'Occident sur la Grèce antique, la Grèce mythologique, paradoxalement, elle a servi la Grèce à un moment historique, c'est-à-dire l'entrée de la Grèce dans la communauté économique européenne, puis dans l'Union européenne, peut-être pas dans la zone euro, mais enfin, le moment où la Grèce rejoint l'euro, très tôt, pour dire l'état économique de la Grèce à ce moment-là, c'est dû au fait que précisément les élites européennes à cette époque étaient encore nourries d'une culture classique, grec-latin. Et donc pour ces élites, c'était impensable de faire l'Europe sans la Grèce. Et aujourd'hui, ce qui est frappant, et on le constate notamment à travers des dirigeants comme Angela Merkel, il y a un rapport complètement différent, décomplexé, j'ai envie de dire, par rapport à cet héritage classique, qui fait qu'on ne s'intéresse plus à la Grèce à travers ce filtre mythologique ou classique, et qu'on la considère comme le parent pauvre, comme le parent oriental et difficile à gérer de l'Europe. Et ça, c'est un véritable tournant, en tout cas, du point de vue occidental.
Et ça, c'est une question importante, parce qu'effectivement, la question, comment peut-on faire l'Europe sans la Grèce ? Ce serait s'amputer d'une partie considérable de notre histoire à tous.
En plus, il y a des facteurs géopolitiques très importants. Si ça verrait ce Grexit, déjà vous voyez qu'est-ce qui se passe avec tous ces réfugiés. C'est une situation tragique. Donc, c'est la seule démocratie là, ce bout du monde, avec un Orient prêt à s'éclater. C'est le seul point de démocratie. Mais c'est difficile, je ne vois pas qu'il y aura une solution. Je vois, malheureusement, les choses s'empirer. Et au moins qu'il ne change la corrélation des forces en Europe. Je ne peux pas voir les rapports de force, je ne peux pas voir comment nous, en Grèce, avec ce troisième mémorandum, on peut s'en sortir. Donc, ce sera un appauvrissement et la Grèce en même temps est très fragilisée et très vulnérable. Et je ne parle pas seulement du point de vue financier, mais de vie humaine, il y a une crise. Et même, je voudrais dire psychiquement, parce que la crise vide. C'est vide de tout, c'est vide de bons estimants. On ne peut pas même. C'est devient plus difficile d'être solidaire quand on est dans une situation de telle pression.
Oui, Yannis,
je voudrais revenir sur un point évoqué par Nicolas, le tournant. Le tournant n'est pas représenté seulement par la classe politique actuelle, Angela Merkel et les autres. Je pense que le tournant est beaucoup plus général. C'est un tournant d'une Europe politique. Je sais bien que l'économie a été la locomotive de l'Europe dans les années 50, mais ça s'expliquait par des raisons historiques, n'est-ce pas? Parce que bon, la guerre était très très proche et il fallait vraiment oublier les plaies un peu pour repartir. Mais on voyait l'économie comme un moyen pour arriver à une Europe politique. Actuellement, l'économie devient une finalité en elle-même. Et c'est ça qui écrase, pas seulement les peuples du Sud, mais tous les peuples. De notre côté, l'Europe sans la Grèce n'est impensable, disait Nicolas, disait aussi Hercy. Moi, je voudrais revenir bien avant l'entrée de la Grèce au marché commun, à la communauté économique européenne, à la naissance de la Grèce moderne. L'Europe est, comment dire, inscrite dans la naissance même de la Grèce moderne, parce que la Grèce moderne, sans l'Europe, elle n'aurait pas eu conscience de son passé. Son passé, elle l'a connu à travers l'Europe. Mais aussi, l'Europe est impensable sans la Grèce, parce que la Grèce est dans le noyau de l'Europe. Et je lisais l'autre jour Rabelais, regardez toute la langue grecque qui est présente chez Rabelais. Enfin, tous ces noms, épistémon, échéphron, je ne sais pas, picrocol, enfin, tout. Et puis, l'Europe découvre la Grèce encore à la fin du XVIIIe siècle, du XIXe. Les Lumières, le romantisme, tout ça, c'est la Grèce déjà. Donc, il y a eu un lien. Bon, je pense que c'est une Grèce qui est mal comprise, si vous voulez, dès le départ, parce qu'on a idéalisé la Grèce. On voulait retrouver la Grèce antique dans la Grèce moderne, et ce n'était pas comme ça. Il fallait creuser beaucoup plus profondément pour trouver cette continuité. Et la Grèce aussi n'a pas connu les Européens, parce qu'elle n'a pas connu la modernité, elle n'a pas connu la Renaissance, elle n'a pas connu la Réforme, elle n'a pas connu la Révolution industrielle. Tout cela fait qu'il y a une incompréhension très profonde entre les peuples du Nord et les peuples du Sud. Et ça s'explique beaucoup aussi, en grande partie, cette crise que nous vivons. Ce n'est pas seulement une crise de la dette, etc. D'ailleurs, la dette, on peut discuter. Il y avait M. Markaris l'autre jour qui disait que les Grecs étaient tout à fait responsables, en fait, parce que la classe politique, le système clientéliste, il y a eu beaucoup de corruption, il y a eu des scandales épouvantables. Mais il faut relier ça à l'Europe aussi, qui ne contrôlait pas la Grèce, qui ne contrôlait pas sciemment la Grèce, parce qu'elle avait intérêt. Enfin, alors M. Markaris, qui a une expérience plus concrète que moi, parce que moi je suis un essayiste, je suis plutôt un penseur, M. Markaris disait que les Léopards, Siemens, les Mirages, les Jeux Olympiques, tout ça, aussi bien les Allemands que les Français ont profité énormément de ça, et que, bon, les Grecs, et vous voyez, les Grecs d'autre part, c'est le mimétisme. J'ai dit que la Grèce n'a pas connu toute la modernité européenne. Donc, ils se sont lancés à corps, à corps perdu dans cette société de consommation qu'ils ne connaissaient pas. Parce que le grec traditionnel avait un ethos très frugal, n'est-ce pas ? On était des paysans et je voyais, enfin, dans ma jeunesse, les gens partir avec leur âne. Ils avaient une tomate, un morceau de fromage pour toute la journée. Et après, on a vu, enfin, dans les années 80, des gens avec des voitures incroyables, les ânes ont disparu. Alors, tout ça, c'est le mimétisme de l'Europe. Et donc, là aussi, il y a une responsabilité plus profonde que celle qu'évoquait M. Markaris. On peut parler indéfiniment de cela, mais je voulais laisser la parole.
Aussi, oui. Yannis, c'est un pays, c'est aussi que la fête de la pauvreté est bien comme peuple a souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale.
C'était on a eu la famine chez nous.
Un phénomène en Europe.
Oui, oui.
Donc, on peut même pas les excuser, mais je veux dire...
Non, il ne faut pas les excuser, mais il faut comprendre.
L'argent comme ça, et puis, c'est un peu, comme nation, comme État, c'est presque né sur le clientélisme et avec la connivence. Des forces étrangères.
Mais Nicolas a évoqué tout à l'heure le côté superficiel de stéréotypé, les clichés du journalisme.
Moi, je crois
c'est vrai qu'il est très difficile de comprendre la Grèce.
Oui, parce qu'il faut avoir en main...
Voir que c'est un État-nation qui naît du néant. On a une société archaïque, rurale, orientale, ottomane, et puis soudain, naît un État. Un État, bon. On assassine le premier gouverneur, qui d'ailleurs était ici en Suisse, à Genève, Capodistria, et qui était ministre des Affaires étrangères en Russie, puis on fait venir un roi bavarois, Othon. Alors, c'est le néoclassicisme. Alors, tous les Grecs disent, nous sommes les héritiers de la Grèce classique. Si vous allez en Grèce, vous voyez l'université, l'académie, C'est construit sur, enfin, comme dans toute l'Europe d'ailleurs. Mmh. Si vous allez au British Museum, c'est la même chose. Oui. En fait. C'est ça. Mais d'autre part, on a calqué cet État sur un modèle étranger, européen. Donc cet État n'a pas pu vraiment fonctionner. Et l'État, il y avait l'héritage ottoman. On voyait l'État comme un ennemi. Une fois que l'État est devenu grec, on l'a vu aussi comme un ennemi, mais on l'a vu aussi comme un protecteur. Alors, d'où le clientélisme. Tous les Grecs rêvaient à prendre des lettres, comme on disait « gramata » en grec, c'est-à-dire faire des études, pour pouvoir être nommé fonctionnaire de l'État. Donc, la pléthore... Alors, tout ça, ça s'explique, ça va beaucoup plus loin que les années 80. C'est vraiment...
Mais je crois qu'il y a une succession de malentendus. C'est des malentendus, d'ailleurs, qui se manifestent autant dans les périodes heureuses, les périodes de croissance, que dans les périodes de crise. Et ces malentendus, ils traversent d'ailleurs toute la littérature européenne. Il suffit de lire, la plupart des auteurs ont fait l'expérience grecque à un moment donné ou à un autre. Certains en font des livres, des œuvres majeures. D'autres parlent de leur expérience grecque au hasard d'une nouvelle ou détour d'un carnet. Et à chaque fois, je suis frappé de voir que ça soit dans les années, 19e, mais parlons du 20e, que ça soit dans les années 20, juste avant la guerre, après ou plus tard, on a une succession de clichés qui sont alignés et de projections surtout. L'auteur se projette dans cette Grèce qu'il voudrait trouver telle que dans ses manuels et dans laquelle il espère aussi se découvrir.
Vous parlez des auteurs...
Que ça soit des auteurs... occidentaux, j'entends. Occidentaux, bien sûr. Même, par exemple, Sartre et Simone de Beauvoir se sont rendus en Grèce. On peut lire ça dans leur carnet de voyage. C'est pathétique. C'est des textes extraordinairement pathétiques par rapport à la puissance de l'œuvre de l'un et de l'autre. D'incompréhension, de mal-être, de malaise.
Politique.
Politique, puis même malaise tout simplement de voyageurs qui ne savent pas comment voyager dans cette Grèce-là et qui sont épuisés par les conditions de confort dans le Péloponnèse, dans des pensions minables autour d'Olympie, qui voulaient retrouver la grandeur. Enfin, c'est un rendez-vous manqué.
Alors que Camus se retrouve tout entier.
Si mais Camus, il est entier connu, lui, c'est pas pareil.
Henry Miller, bien sûr, avant.
Lui, il est chez lui. Camus, il est chez lui, c'est pas pareil. Lui, il connaît ça. Ce qui était frappant dans ce que vous disiez juste avant, c'était la brutalité de l'histoire qui a fait que la Grèce a avancé non pas par palier progressif, mais ce passage d'un état rural à une modernité brutale. Est-ce que c'est la même, finalement, c'est un peu la même brutalité qui est faite là en ce moment?
Aujourd'hui, il y a encore ce conflit, parce qu'on ne s'est jamais vraiment adapté à la modernité telle qu'elle. Si vous voyez à Athènes, vous voyez le chaos de la vie quotidienne. Il est bien décrit par Hercie dans ses romans. Alors, vraiment, on sent que vraiment, on est à mi-chemin entre l'Orient et l'Occident, n'est-ce pas? Toujours. Mais on a toujours rêvé d'Occident. On a voulu devenir un État occidental. C'est ce qui s'est passé partout dans le monde, après. C'est la mondialisation. Sauf que la Grèce, ça commence au début du 19e siècle et même à la fin du 18e, puisqu'il y avait la diaspora grecque qui a préparé cette insurrection, cette révolution, qui a porté.
Bien, j'aimerais qu'on dise quand même quelques mots de vos livres respectifs. Hercie Sotiropoulos, Eva, était paru en Grèce il y a déjà quelques années, mais il se trouve que la traduction française est parue là, en ce début d'année 2015, bien sûr, avec une sorte de coïncidence incroyable par rapport au calendrier politique, de telle sorte que quand on lit le roman, dont on peut dire qu'il est construit sur une métaphore très forte, qui est celle de la nuit, on se pose la question de dire, mais au fond, cet état de nuit que vous décrivez, qui représente l'état actuel du pays, vous le ressentez depuis longtemps ?
Oui, c'était très clair. Et même maintenant, je ne pense pas que ce sera possible et que la situation est beaucoup empirée. Donc, des zones entières là sont comme disparues. En plus, ce ne sera pas possible d'avoir une fête comme celle-là. C'est
comme celle que vous décrivez, oui.
C'est passé.
Parce que le roman commence donc dans une boîte de nuit, des gens sont réunis dans une fête, donc voilà. Et là, même cette fête-là, elle n'aurait pas lieu.
Peut-être, mais à titre très très privé, dans une maison de quelqu'un de très riche, mais pas dans ce style-là. Non, c'est plus possible.
Mais déjà dans votre fête, il y a une scène qui est très frappante parce qu'il y a un moment, un homme qui tombe au sol en criant « j'ai faim, c'est ça ?» Et il a volé un salami, hein, c'est ça. Et il tombe raide au milieu de la fête. Donc, c'est une fête, mais c'est une fête... bon.
Oui. Là, c'est
prenez bien le micro.
Je le disais avant, pendant la croisière, que à ce moment-là, dans la fin des années, vers 2008-2010, et plusieurs fois même dans les présentations des livres, quand il y avait un cocktail, s'y introduisait des gens, il y avait deux ou trois ensembles, il n'était pas vraiment des mendiants, il était habillé un peu comme ça, mais pas. Et là, il s'est défaussé un peu de nourriture, de mettre dans les... Mais là, il ne sait pas ce qui se passe, parce que maintenant... Il n'y a plus de cocktail, donc...
Donc c'est... Voilà. Alors, il faut préciser pour ceux qui n'auraient pas encore lu Eva, que donc, il y a cette soirée dans une boîte de nuit, ça se déroule dans le milieu littéraire, et Eva travaille dans l'édition, et donc elle s'enfuit de la boîte de nuit, et elle part, et elle se perd, en fait, dans les rues de la ville. Et alors, elle y fait des rencontres, qui là aussi, chacune des rencontres... emblématique. Vous parliez des souffrances psychologiques
et
tout à l'heure.
En même temps, elle est dans une partie d'Athènes qui existe, réelle, mais elle ne connaît pas. Dans les bas-fonds d'Athènes, une ville un peu comme invisible pendant les jours. Et là, c'est comme des fantômes, qui sont des fantômes réels, qui surgissent, bondissent devant elle, et va à l'encontre de ce monde, et qui finalement est plus chaleureux. Si on fait un paragon avec les gens du club, ces gens-là, qui sont comme des esprits de Noël, sont plus amicaux.
Donc elle rencontre d'abord une prostituée qui est en train de se réchauffer devant un brasero. Une deuxième qui est médium, et puis après il y a un gardien de nuit, un voleur, pickpocket. Voilà, donc chacun peut être emblématique de quelque chose voilà, auquel elle a besoin de se confronter.
Oui, et là, ce pickpocket qui est aussi un peu philosophe, chose pas rare en Grèce. Même très souvent, il y a un chauffeur de taxi philosophe, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr.
Il y a ces sortes de dialogue à une voix de là, qui c'est comme un miroir pour Eva. Et une descente dans ses propres expériences, problèmes, où elle arrive avec. C'est comme un jet de miroir interposé.
Et donc au cours de cette nuit, en fait, elle remonte à la fois le fil de sa journée. On parlait du rapport au temps tout à l'heure, mais c'est vrai qu'elle le présente, cette nuit qui se déroule, et puis il y a tout le passé qui lui revient. Voilà. Donc en même temps, c'est aussi l'occasion de revisiter sa vie.
Sa vie.
Sa vie. Oui. On peut dire ça comme ça.
Et tout ça dans l'attente, parce que c'est important, sinon elle n'aura pas poursuivi cette errance, qu'il y a ce désir déclenché par la rencontre avec ce jeune homme, le jeune écrivain, très à la mode, qu'ils ont changé un baiser furtif dans les toilettes. Et là, quelque chose d'une inspiration, un peu de folie, s'allume en elle-même. Et donc, elle est plus, même, elle se fait plus de confiance pour partir, en espérant de les revoir, naturellement.
Bien sûr, voilà. Bon, j'espère qu'on aura le temps d'y revenir, mais je voudrais qu'on parle, Yanis Kourtsakis, de votre dernier livre, parce que déjà, dans le Dix Colons, c'était un livre vraiment placé sous le signe du double, et vous évoquiez la dualité entre la Grèce et la France, entre le passé et le présent, entre le récit et la réflexion, et d'une certaine façon, ce dernier texte, Double Exil, le titre l'indique, installe peut-être encore davantage ce thème-là.
Oui. Il faut dire que ce n'est pas mon dernier roman, c'est un roman qui est paru en Grèce en 2000. En fait, ça fait partie d'une trilogie qui s'appelle Le même et l'autre. Il y a un enjeu philosophique là-dedans. Et c'est le deuxième volet de cette trilogie. Donc, le troisième est paru déjà en Grèce en 2007. Il est en cours de traduction. Peut-être il sera publié un jour en France. Ces trois livres se relient. d'une manière très, très particulière, parce qu'ils peuvent être lus d'une manière autonome, parce qu'il y a une circularité. Donc on peut commencer par l'un, continuer par l'autre, finir, enfin, dans tous les sens. Alors, double exil, évidemment, l'exil, c'est un thème qui me poursuit depuis mon adolescence, parce que justement, je suis parti de Grèce en me sentant exilé, j'ai tout fait dans la crise. Est permanente, puisqu'on a le sujet littérature et crise, la crise est permanente en Grèce, comme en Europe au fond. Toute la modernité est une crise. Depuis la fin du 18e, depuis la révolution industrielle, la modernité entière est une crise. Donc je pars en Europe, en Europe, on dit en Europe, en Grèce, pourquoi ? Parce que justement, on est et on n'est pas dans l'Europe, vous voyez, en Europe. C'est pour ça que l'Europe, parfois, c'est entre guillemets. Et alors, je découvre, en même temps que les lumières européennes, l'obscurité européenne, le côté faustien, comme je disais tout à l'heure dans La Croisière, ce côté faustien de l'Europe qui me fait découvrir la Grèce, donc les fondations, les fondements. Et alors, une fois que j'ai fait ces essais sur la culture populaire, je retourne. Une fois que je fais mes études en France, je retourne en Grèce avec le rêve de devenir un grand commis de l'État, conseil d'État ou corps diplomatique, etc. Et puis, il y a la dictature qui survient. J'abandonne toute idée de carrière, ambition de carrière, et je cherche la Grèce profonde dans l'ailleurs, dans la culture populaire, justement. Et c'est comme ça que je découvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Grèce éternelle, la Grèce de toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet exil ? Ces deux exils se complètent parce qu'il y a un désir de patrie en même temps dans l'exil. Mmh. Si on se sent exilé, c'est parce qu'on est attaché. Et je sens que j'ai une double patrie, et ça, c'est un enrichissement. La France, c'est ma patrie, l'Europe, c'est ma patrie, et la Grèce aussi, c'est ma patrie. Mmh. Alors, je cherche l'une à travers l'autre. C'est pour ça que je dis que ces deux crises sont liées aujourd'hui. Il n'y a pas de crise intérieure actuellement sans crise extérieure. Parce qu'on est partout, on est tous embarqués. Vous le voyez partout en Occident aujourd'hui. Vous voyez, il y a une espèce de guerre civile larvée avec l'islamisme, par exemple, qui ne vient pas seulement de dehors, mais qui vient de dedans. Pourquoi tous ces jeunes partent, des jeunes en France et en Angleterre, partent avec l'État islamique ? Ça paraît aberrant, et pourtant, ça se passe. Mmh. Ça se passe. Alors, je sens que, en quelque sorte, la crise de la Grèce est prémonitoire. Je ne réponds pas tout à fait à votre question sur le livre, parce que actuellement j'écris un autre genre de livre, des essais sur l'exil, justement. Parce qu'il faut dire que double exil, ça ne s'appelait pas en Grèce comme ça s'appelait nous les autres. Nous les autres, pas nous et les autres. C'est-à-dire qu'il y a une altérité dans chaque identité. C'est quelque chose de contre l'ethnocentrisme, contre l'enfermement chez soi, contre le repli. C'est pour l'ouverture à l'autre, justement, nous, les autres. Mmh. Alors, actuellement, le dernier livre qui est paru, mais en grec seulement, ça s'appelle « Chercher dans l'exil sa patrie dans l'exil », justement, parce que je sens que c'est un exil d'être en Grèce aujourd'hui, de vivre. Et puis, l'exil, on le voit partout maintenant, parce qu'il y a cette question des migrants dont vient de parler Hercy. Alors, là, c'est tragique, et alors, l'une crise reflète l'autre. C'est comme deux miroirs qui sont face à face. Et il faut se regarder dedans. Il faut se regarder, regarder la Grèce et regarder l'Europe.
Mmh. Moi, j'ai envie de dire que, pour rebondir sur ce que vous dites, Yanis, c'est que, par rapport à la crise des migrants, c'est chaque fois une histoire individuelle qui s'ajoute à une autre. C'est ça, et je pense que plus on s'approche de ça, plus on comprendra. Et c'est pour ça que la littérature est importante. Et effectivement, quand on lit le livre de Yanis, on comprend beaucoup mieux ce que c'est que partir, partir et revenir, d'ailleurs.
Ce que ça représente qu'un exil. Et vous faites dire à votre narrateur, qui vous ressemble peut-être beaucoup, qui est un jeune homme qui arrive donc à Paris dans les années 1960, qui vit là toute une initiation, qu'il ressent dans l'exil, donc à Paris, une grande solitude.
Vous parlez à moi ?
Oui, à vous, pardon. Je suis revenu à votre texte. C'est votre narrateur à vous, qu'il vit une grande solitude, qui est bien sûr la solitude qu'on peut ressentir effectivement dans l'exil. En même temps, j'étais frappée tout à l'heure par le fait que Hercy disait qu'en Grèce aujourd'hui, il n'y a pas de solidarité et que la crise a fait tomber.
Et je le vois même à moi-même, que la crise m'a fait beaucoup plaisir.
Donc on est plus seul aujourd'hui.
Et moi, j'avais une illusion au début. Et Dans les années, quand ça a commencé, vers les années 18-19, oh non, 2009, 2008, 2010, j'ai pensé que peut-être la crise pourrait être bénéfique pour se débarrasser, bénéfique, pour se débarrasser de toutes ces blondes à la TV, pour retrouver le sens de l'amitié, de se retrouver entre amis, de se revoir. Et c'était faux. Car la crise, c'est pas, la crise ne laisse pas l'espace pour ça. On devient perdre. On devient son âme. Oui. On devient, et je le vois moi-même.
Ouais.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Hersi. Parce qu'il y a ce phénomène-là, c'est très très clair. Il y a vraiment la dureté, l'égoïsme, le racisme. On l'a senti déjà dans les années 90, au moment de la... Au moment de la... Oui, pardon.
Je ne parle pas de racisme. Oui. Non, là, je parle de moi-même.
Oui,
d'accord. Je suis beaucoup plus dur.
Non, mais tu sens qu'il y a une solitude très grande. Et c'est vrai. C'est vrai. On voit qu'il y a des disputes. On voit une espèce de guerre civile larvée et qui existe un peu partout aujourd'hui. On voit des couples qui se défendent. On voit des amitiés qui sont démolies à cause de la crise, à cause des débats idéologiques. Il faut dire qu'en Grèce, il y a un autre ferment, c'est la division nationale, depuis toujours. Il y a une espèce de germe de guerre civile qui est en permanence, qui est là, qui est latent. Alors ça, c'est très vrai. Il y a eu de la xénophobie depuis les années 90, au moment de la chute des régimes communistes, n'est-ce pas? Maintenant, les Albanais, la communauté albanaise est plus ou moins intégrée. Parce que, bon, actuellement, bon, on accueille une foule d'émigrants. Il y a beaucoup d'égoïsme, et puis Nicolas évoque le mur de Vros, il y a des horreurs là-dedans,
horreurs, quoi, qui se passe.
Mais en même temps, il y a des réseaux de solidarité qui se créent. Dans mon quartier, par exemple, à Pangrati, je vois qu'il y a des assemblées, il y a vraiment des bazars alternatifs, il y a une monnaie alternative, il y a vraiment beaucoup de solidarité. Le boulanger de mon coin, le jour de la grève des boulangeries, a donné à mi-prix, à moitié prix, le pain, il a distribué le pain. On sent que vraiment, Jean-Claude Juncker évoquait l'autre jour un boulanger de Kos qui a donné son pain aux migrants. Donc, on sent que vraiment il y a des réseaux. Et puis, en revenant au village, moi qui croyais que la culture populaire était morte, j'ai vu l'espoir et je le vois fleurir dans la langue même. Parce qu'un garçon, un berger, me dit, les gens qui arrivent, c'est une fête. Et la fête revit. Alors, la fête ne vit pas à Athènes, peut-être, parce que la fête est mélancolique. Mais la fête dans les villages, on la sent revivre. Moi, je me sens un peu un homme archaïque. Je retourne souvent dans les villages, je me ressource un peu. Alors, cet ami, berger, recevait tous ses amis qui venaient de Salonique, d'Athènes, etc., pour la fête. Et puis, j'ai vu cette chaleur humaine, je dis, mais comment tu es tellement aimé, etc. Il m'a dit, mais c'est l'agora. Alors, le mot agora a refleuri aussitôt, le mot agora dans son sens antique, qui n'est pas l'échange des marchandises, mais qui est l'échange des paroles, n'est-ce pas? Et alors, l'échange de marchandises vient après. Alors, je pense que la Grèce a à apprendre quelque chose à l'Occident actuellement. Peut-être je suis très chimérique, je suis utopique, mais...
vous n'avez pas l'impression qu'il y a une forme de passivité quand même? Pas de passivité, ce n'est pas un mot qui convient parce qu'il est peut-être négatif, mais une forme d'acceptation, on va dire, quasi orientale, tamam.
Pas tout à fait, je n'ai pas l'impression. Vous voyez, en 2011, on a eu les indignés. C'était vraiment quelque chose qui a grossi beaucoup. Ça n'a abouti à rien. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, que le pays se vide de sa jeunesse. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui émigrent à l'étranger. Une population âgée de retraités ne veut pas faire la révolution, c'est sûr. Il y a encore des jeunes, mais je vous assure, l'Allemagne est pleine de jeunes. Je constate ici qu'en Suisse, en France, en Allemagne, en Angleterre, tous mes amis de mon âge, tous leurs enfants sont à l'étranger, parce qu'ils sont... Maintenant, ce n'est plus l'émigration ouvrière comme dans les années 60, c'est l'émigration intellectuelle. Ce sont des gens, des universitaires, des médecins, des avocats, des ingénieurs, des économistes. Alors, ça, c'est une chose. Ensuite, déjà, les élections du début de 1920, de 2015, c'était un geste vraiment très audacieux. indépendamment du résultat, parce que vraiment il y a eu une contestation du système politique, les gens ne savaient pas où donner de la tête, alors ils ont voté massivement, et même le référendum, c'était vraiment, on sentait, et Hercid l'a remarqué dans ton article, que les gens respiraient, qu'ils avaient une... Tu te rappelles ? Après le 25 janvier. Maintenant, bon, on retombe encore dans la dépression parce qu'on voit que ça a tourné en rond, qu'on a abouti à rien. On a placé beaucoup d'espoir. Enfin, je veux dire, les gens ont voté sans illusion. Ils ne pensaient pas que Tsipras allait faire tout ce qu'il avait promis. Ils pensaient qu'il allait faire un tout petit peu. Eh bien, ils se sont engagés là dans cette voie.
Dans le tout petit peu. Même le tout petit peu.
C'était une petite. Ce référendum, c'était vraiment l'impasse. Parce que, bon, il y avait. Tous les gens, enfin, du côté des écrivains, des intellectuels, étaient pour le oui, passionnément. D'autres étaient pour le non. Moi, je n'étais ni pour l'un ni pour l'autre parce que je voyais l'impasse de l'Europe et l'impasse de la Grèce. Personnellement, j'ai voté nul. Non à cette Europe qui opprime le peuple et non à ce référendum qui n'aboutit à rien.
Bon, j'aimerais qu'on présente votre roman Nicolas Verdun, donc Le Mur grec, qui est un roman mais qui repose sur un long travail d'investigation, donc il a aussi un caractère très documentaire. Une des premières choses frappantes au tout début du texte, c'est le fait que vous dites que la Grèce est vendue. Elle est vendue morceau par morceau aux Chinois, aux Émirats, et vous dites l'Union européenne est loin derrière, donc
oui,
ça en dit long.
Là, il faut savoir que quand je dis ça, parce qu'il y a un décalage temporel quand même, c'est que quand j'ai fait ces enquêtes en Grèce, c'était entre 2006 et 2010. Donc, qui ont abouti à certains articles, mais peu d'articles, compte tenu de la masse d'informations engrangées. Peu d'articles, parce qu'à l'époque, c'était très difficile de vendre un article sur la Grèce, ça intéressait pas grand monde, que ce soit en France ou en Suisse. Et à ce moment-là, tous les germes de la crise actuelle étaient perceptibles. Et oui, vendu pan par pan, comme je le dis, effectivement, à l'époque, on avait en tête des grands groupes chinois, émiratis, qui achetaient les compagnies de navigation, le Pirée, toute l'économie de fret, cette économie fondamentale quand même pour la bonne marche de la Grèce. Et l'Union européenne était là avec ses banques, essentiellement. Elle était là en train d'acheter des banques grecques, de former les jeunes banquiers grecs. J'ai assisté à des réunions hallucinantes, un 14 juillet au Hilton d'Athènes, où on voyait des banquiers français, des dirigeants de Carrefour ou de Danone discuter entre eux du contact qu'ils avaient avec les jeunes cadres grecs qu'ils allaient former. Et on avait l'impression d'être dans un terrain conquis de colonies. C'était un discours purement colonial et qui basait sur l'investissement massif avec en retour une consommation qui devait croître. Et c'était l'époque où d'ailleurs on n'arrêtait pas de dire que la Grèce avait un taux de croissance hallucinant. Enfin, on nageait en plein délire, Et donc effectivement l'Union européenne était un peu à la course derrière ces conglomérats asiatiques.
Une des choses que vous abordez également extrêmement rapidement, c'est la question de ce qu'on appelait à l'époque les clandestins. On a changé de vocabulaire maintenant, en tout cas en France, on dit les migrants, parce que c'est le terme qui, neutre, qui permet de... Et vous rappelez le fait que, pendant longtemps, l'Europe n'arrêtait pas de stigmatiser la Grèce en disant « vous laissez rentrer les... » Et on voit où on en est aujourd'hui. Enfin, là encore, la Grèce a été aux avant-gardes, d'une certaine manière, enfin, si on peut utiliser ce terme, malheureusement. Mais vous l'abordez très vite.
Ah, disons, par exemple, en 2009, j'étais sur cette frontière qui sépare la Grèce de la Turquie. C'est une frontière fluviale avec 12,5 km carré de terrestre. Sinon, la Grèce est séparée de la Turquie par la mer. Et sur cette frontière fluviale, tous les jours, des gens tentaient de traverser du fleuve Evros sur des embarcations de fortune, et beaucoup mouraient durant la traversée parce que les canaux se déchiraient au milieu du fleuve qui était très rapide. Il y a des petites îles assez redoutables, des branches d'arbres, enfin c'était terrible. Et tous les matins, on voyait débarquer 300 à 400 personnes dans les commissariats des petites villes de Thrace orientale, avec des policiers qui étaient censés accueillir des gens. Enfin, ils ne faisaient plus que ça, ils ne faisaient plus que de l'enregistrement de personnes qui arrivaient du Tadjikistan, d'Afghanistan, d'Irak, et même d'Algérie, du Maroc, parce qu'ils payaient un billet de charter jusqu'à Istanbul, un bus jusqu'à la frontière, et ils traversaient. Et bon, mais ça, c'est tout l'aspect journalistique. Et Ensuite de quoi, je crois que j'ai été submergé par les informations et par l'émotion aussi, et je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose qu'un livre de journaliste. J'ai eu besoin de passer par la fiction pour témoigner de cette réalité.
Vous avez trouvé une bonne façon d'entrer dans la fiction parce que vous avez créé un personnage qui est un personnage de policier, et finalement les policiers sont des gens extrêmement bien placés pour côtoyer un peu toutes les misères du monde, toutes les réalités les plus compliquées, les plus sombres, les plus... Voilà.
J'ai envie de dire, malheureusement, en Grèce, à l'époque, il n'y avait pas de ministère chargé d'accueillir les migrants. Il y avait pas, c'était la police qui s'en chargeait.
C'est ça.
Et la police, qui avait d'ailleurs d'autres choses à faire et qui était complètement débordée et qui n'avait certainement pas les méthodes adéquates d'accueil et d'enregistrement. Sur quoi s'est ajoutée la police des frontières européennes, Frontex, avec des gens envoyés de toutes les régions du monde, d'Europe, en uniforme, gardes frontières qui avaient des méthodes tout aussi douteuses de ce que j'ai pu observer sur le terrain, dans la manière de gérer ce flot ininterrompu. Mmh. Mais difficile de juger, parce qu'il faut voir la situation, il faut voir chaque matin 300 personnes, les habits trempés par une traversée de rivière devant un petit commissariat de province avec des gardes de frontières hollandais, finlandais et trois policiers grecs qui les regardent les bras ballants et qui ne savent même pas ce qu'il faut faire. Mm. Pas de budget non plus pour leur donner de l'eau et à manger.
Une dernière intervention de ma part, et puis après on essaiera de prendre quand même une ou deux questions avant que moi, personnellement, je me sauve. C'est une phrase que vous faites dire à un de vos personnages, Nicolas Verdan, mais que j'aimerais vous soumettre à tous les trois. Vous dites « Les Grecs disent que la crise est une fiction, quelque chose qui n'existe pas ». Et cette phrase-là, elle m'a vraiment frappée. Donc voilà, j'aimerais vous la soumettre comme réflexion à tous les trois. C'est une fiction, on peut l'aborder comme ça.
Je l'aime beaucoup.
Oui, c'est une belle image. Oui, oui.
Qu'est-ce qu'il entend sur votre personnage?
Alors, je m'explique. Le personnage, en l'occurrence, il traduit une phrase qu'il a souvent entendue. En l'occurrence, dans le livre, c'est une prostituée russe qui entend ça de la part de ses clients et puis de gens qu'elle croise les rares fois où elle est sortie de son hôtel à Athènes. Et moi, c'est une phrase que j'ai souvent entendue. C'est dans la tête, c'est une fiction. Et c'est une manière de se singulariser par rapport à ce mot « crise » qui est employé par les médias. La crise, la crise, la crise, c'est la dette que l'État ne peut pas honorer. Mais ce que j'ai envie de dire par là, c'est que c'est d'abord un rapport... individuel, subjectif, on est dans l'ordre du psychologique, dans la relation à cette crise. Et c'est cette relation psychologique qui, quand on y est confronté, permet de mieux comprendre la crise dans son ensemble, je dirais. Mais chacun des Grecs est porteur de cette crise. Et du moment qu'on lui dit la crise, il a l'impression d'être dépossédé de sa propre perception de cette crise. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Ça vous inspire quelque chose? Également, Yanis Kourtsakis, cette idée de la crise comme une fiction, c'est assez...
Je suis perplexe un peu, je ne sais pas. Ouais. Je pense que la Grèce est un pays tragique depuis tout le temps, et puis elle l'est encore maintenant. Donc la tragédie aussi, c'est une fiction, mais c'est une fiction qui dit la vérité. On veut échapper au malheur, mais il vient. Je me rappelle un poème de Cavafy, « Les Troyens ». Justement au moment de ça, parce que les Troyens, vous connaissez peut-être ce poème, les Troyens vous menacent, Achille, les Troyens sortent, ils croient gagner, et puis tous nos efforts sont vains comme ceux des Troyens, dit le poète, justement, parce que Achille sort et il nous épouvante, et on se recache, et on va perdre. Notre chute est certaine. Alors, les Grecs ont senti une respiration, un sursaut de démocratie, de dignité perdue, et puis ils sont encore replongés dans la crise. Alors je ne sais pas quand il y aura la catharsis, si vous voulez.
Y a-t-il des questions? Une ou deux? On ne pourra pas en prendre plus, ça va être assez... voilà. Donc, elles sont les bienvenues, mais il n'y en aura pas beaucoup. Alors, allez-y, si vous voulez en poser sur les textes ou voilà, sur des choses un peu plus larges. Oui, madame, on va vous donner un micro, voilà.
Je voulais juste vous demander comment vous voyez l'issue de ces problèmes en Grèce. Quel futur pour votre pays? Comment vous voyez quelles sont les solutions.
Le futur, alors.
Ça s'adresse à tous.
Eh oui, c'est pour vous oui, trois, le futur.
Qu'est-ce qui pourrait faire que...
Parce oui, on a compris la question, fait. Madame, oui, oui.
Si on parle d'une reprise du pays, je ne suis pas optimiste du tout. Je ne me fais pas des illusions, je pense qu'on est là. Je ne vois rien, rien. Mais en même temps, il y a. Comment dire. Je ne sais pas en français le mot. Pour ça, les micres esties.
Des petits foyers.
Des foyers de. D'énergie, de vitalité oui. dans les arts, les jeunes, les théâtres. Ça même dans bien. Ces cas-là, on voit qu'il y a des théâtres minuscules dans des quartiers improbables, des petits appartements, ou des galeries, même dans des quartiers impossibles. On écrit, on a beaucoup de revues, on publie de la poésie. Donc, on voit que les gens... Ils sont pas encore aux gens de force physique. Les gens qui restent, qu'il y a une grande vitalité de ce côté-là. La musique aussi, beaucoup. Donc, ça. Et puis, il y a les îles. Et quand on va aux îles, il y a un souffle, quelque chose se passe. Parce que c'est vrai que grâce à cet écosystème, la mer, les salles, les touristes qui aident beaucoup, la situation aux îles n'est pas tragique comme en Athènes.
La crise se sent moins dans les îles.
Oui.
Je suis d'accord avec Hercy parce que justement, ces foyers, ces petits foyers culturels sont liés à ce que je disais tout à l'heure, les réseaux de solidarité. Ce sont des phénomènes complémentaires, ce n'est pas séparé. Cette solidarité se manifeste dans la culture, dans les arts. Et tout à l'heure, lorsque je disais que la Grèce est un pays tragique, ça veut dire évidemment qu'on voit des choses très, très sombres, d'une manière très sombre, mais le tragique, c'est une catégorie au-delà de l'optimisme et du pessimisme, si vous voulez. Il y a toujours la perspective d'une catharsis, ou pour parler d'une manière chrétienne, parce que la Grèce est pétrie aussi de culture chrétienne, la résurrection chez nous, c'est un symbole très fort. Il y a un anastasie. Alors, c'est quelque chose... Les Grecs ont toujours attendu une anastasie. Alors, c'est cet espoir qui paraît dans ces petits foyers. Et je pense que ce n'est pas le système politique qui peut apporter une solution. Le système politique devra se réformer profondément. Et cela ne pourra pas se faire sans un sursaut de la part de la société, du corps collectif tout entier. Alors, c'est ça, l'espoir. L'espoir radical au moment où tout s'est effondré. Et je pense que la Grèce vivra comme elle a vécu à travers tant et tant de crises, parce que depuis 200 ans, on vit une crise permanente. Et je pense qu'il faut lier cette crise, il faut lier tout, l'économie, l'écologie, la société. C'est ce que dit le pape François actuellement. Alors, le pape François dit que la crise écologique est liée à la crise sociale. Moi, j'ajouterais la crise culturelle. C'est un tout. Je pense que nous vivons une crise anthropologique en Grèce, comme en Europe, comme dans le monde entier. Alors, c'est se reconnaître dans le visage de l'autre, c'est reconnaître sa patrie, chercher dans l'exil sa patrie, c'est ça. C'est reconnaître chez ces migrants, chez tous, l'autre, le frère. C'est ce que disait aussi saint Paul. Je ne suis pas pratiquant moi-même croyant, mais je pense que ce message est fort.
Nicolas Verdant, votre vision de l'avenir?
Moi, j'ai une vision forcément différente parce que d'abord, je n'éprouve pas la crise vivant en Suisse. J'aimerais comme... marquer la différence, en particulier avec Hercy. Mais je pense qu'il doit y avoir un changement de perception de l'interlocuteur de la part des gouvernants européens, de l'Union européenne. Je pense en particulier, là je vais être très politique, à la manière dont le gouvernement de Tsipras a été considéré ou traité par les élites européennes. On peut penser ce qu'on veut, des choix idéologiques, mais il y a encore une fois un malentendu. Le gouvernement de Tsipras, c'est l'émanation des classes moyennes. Pour la première fois depuis très longtemps, en Grèce, les classes moyennes ont élu des gens qui leur ressemblent. Et ça, c'est un véritable changement de paysage politique en Grèce. Et je trouve que c'est ça dont on devrait tenir compte avant tout. Et savoir que les élites qui étaient au pouvoir depuis la fin de la dictature, ces élites-là qui ont conduit le pays dans cette situation catastrophique, avec la complicité, parce qu'interconnectée avec les Européens, avec la complicité des élites européennes, eh bien, je pense que ces élites-là, elles n'ont toujours pas payé ou pris leurs responsabilités par rapport à la crise. Et je trouve terrible aujourd'hui de voir à quel point on charge ce nouveau gouvernement de tous les maux, alors que, précisément, il était l'émanation d'un changement. Mmh. On verra s'il l'est toujours dans les prochaines élections.
Tsipras, c'était le seul gouvernement anti-austérité.
Austérité, oui.
Il l'a payé pour ça. Bien sûr. Je ne discute pas si Varoufakis faisait ça ou fait ça. Ce n'était pas ça, le point. Oui. Il était devant, je crois, un mur. C'est mur.
Mmh. Le fameux mur. Oui. Hein,
ouais.
Comme,
oui, votre,
comme le titre de votre roman.
Et là, c'est très difficile maintenant, car avec cette histoire de la plateforme de gauche, etc. Mmh. C'est vraiment imprévisible. Mmh.
Et peut-être que ce n'est pas le bon gouvernement pour gérer la Grèce, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ce gouvernement, il ne ressemble pas au
Et puis il incarne
précédent.
Quelque chose.
Et c'est cette rupture-là, c'était une chance pour la Grèce, c'était une chance dans l'absolu. Mm. Parce que précisément, les gouvernements précédents ont pratiqué la corruption et le clientélisme à large échelle. Mm. Et cette fois, et les Grecs se sont dégagés de ce système, parce qu'ils avaient aussi leur part de responsabilité. Puisqu'un jeune, parfois diplômé, quand il sortait, mais dans les années 90, 90, 2000 de l'université, il allait demander à un cousin ou à quelqu'un de la famille proche de l'année de Mokassia ou du PASOK, comment ça, accéder au poste dans la fonction publique. C'était très largement assumé, d'une certaine manière, par la population. Donc, en disant non à ce système, en réduisant le PASOK et la nouvelle démocratie au stade de parti très minoritaire, les Grecs ont manifesté un changement. Donc pourquoi pas les encourager dans ce changement ?
On va rester sur cette note très politique, mais en fait c'était aussi l'objectif de cette rencontre. Je suis obligée de mettre un terme maintenant, je suis désolée parce que voilà, il faut absolument... Mais je vous invite à poursuivre bien sûr la conversation et surtout à lire les livres, parce que c'est une des très bonnes façons de comprendre la Grèce, c'est vraiment de lire les romans. Merci infiniment à vous trois, merci à vous tous et bonne fin de journée. Merci.